La Voix de l'Emploi, une série d'émissions consacrée à la valorisation des acteurs de l'économie, de l'emploi et de l'insertion. Ce projet, réalisé par Radio Ondaine, est financé dans le cadre de la politique de la ville par l'État et Saint-Étienne Métropole.
Et dans cette nouvelle émission, La Voix de l'Emploi, nous allons nous intéresser au projet Jobcast. Jobcast, proposé par le centre social Solor La Jaumaillère, le centre social Le Colibri de la Cotonne, en lien avec la ville de Saint-Étienne, l'ANEF et l'émission locale de la Loire, invite des jeunes de 15 à 25 ans à interroger des professionnels de différents secteurs d'activité afin de comprendre leur métier et les enjeux de la formation ou de recrutement. Autour de cette grande table ronde radiophonique, on retrouve des participants à Jobcast, Nemati, Maliki, Judith, Tatoul, et puis des accompagnateurs de ces structures précitées, Abdes Adib de la NEF, Antoine Chillet, artiste et intervenant sur ce projet, et Thomas Sabi du Relais Emploi Solor La Jaumaillère, et puis la Cotonne aussi. Hein. Alors bonjour à tous, hein. Bienvenue sur dans les studios de Radio Ondaine, bienvenue dans cette table ronde radiophonique. Jobcast, en quelques mots, qu'est-ce que c'est? Tiens, qui peut me décrire ce qu'est Jobcast? Qu'est-ce que c'est exactement ce projet-là? Comment il est né? Comment il s'est construit? Et puis, comment il existe?
Bonjour, je vais prendre la parole en premier. Déjà, merci de nous accueillir au sein de Radio Ondaine, parce que c'est important aussi de pouvoir s'exprimer à propos de ce qu'on fait et de valoriser justement ce qui est fait dans les quartiers et pour les jeunes par rapport à l'emploi. Jobcast, du coup, c'est une action qui a été organisé, donc porté par le centre social de Solor, financé par la ville de Saint-Étienne, par Madame Semach. L'objectif, c'était en fait de créer, du coup, de favoriser l'expression orale et de permettre aux jeunes, donc un public âgé de 14 à 25 ans, de découvrir de nouveaux métiers ou des métiers qui les intéressaient et sur lesquels ils souhaitaient avoir plus d'infos. L'idée, c'était aussi, du coup, de leur permettre de manipuler un petit peu les logiciels, de voir comment on crée un podcast, donc autant au niveau du contenu que du contenant. Tout ce qui va concerner, voilà, le coupage, le montage, la création de musique pour habiller, voilà, un petit peu tous les aspects, du coup, du podcast. Et du coup, donc, c'est 4 ateliers. 5 si on comprend la première réunion d'information où là on explique un petit peu ce que va être l'action aux jeunes et puis on voit s'ils sont d'accord pour intégrer ou pas. Donc 5 ateliers en tout qui permettent au cours de plusieurs étapes de créer du coup un podcast.
Alors l'idée est lancée, il faut la construire sur le papier. Alors sur le papier, il y a l'intervention d'Antoine ici pour apporter cette expertise un peu technique. Justement, Antoine, comment vous êtes retrouvé au milieu de tout ça et comment vous avez-vous imaginé ce projet aussi à la base avec Thomas? Comment vous l'avez pensé?
Alors avec Thomas, on se connaissait un peu d'avant, donc du coup on avait pas mal discuté de mener des projets comme ça. Moi je suis musicien et quand on a eu l'idée de, quand le projet s'est monté, je les ai rejoints pour articuler les ateliers. Moi je fais un peu de MAO chez moi et puis je m'enregistre aussi sur des chansons. Donc je me suis dit que pour habiller l'émission de radio avec de la musique, ça allait être sympa. Puis ça permet aussi de faire découvrir un peu tout ce qu'on peut faire avec un ordinateur et de la musique maintenant, puisqu'il y a pas mal de logiciels qui sont en fait gratuits et il n'y a plus besoin de s'équiper comme avant. On peut arriver à faire des choses assez simplement. Donc voilà, et puis après pour le contenu, rien que la rencontre entre les participants et les professionnels, ça donnait quelque chose d'assez génial, donc voilà.
Alors, effectivement, il faut provoquer des rencontres. Et pour provoquer ces rencontres, il faut aussi motiver les participants à venir, à assister et surtout à se concentrer à la réalisation de ces podcasts. Chacun d'entre vous, peut-être, peut expliquer pourquoi vous êtes inscrit dans cette aventure, on va le dire comme ça, parce que effectivement, sans trahir tous les secrets, j'ai aussi participé à un atelier d'écriture où je vous ai vu prendre du temps à réfléchir. Alors, du coup, je ne sais pas, Nemati, Maliki, Judith, Tatoul, expliquez-nous pourquoi ce projet-là vous a intéressé et pourquoi vous y êtes inscrit. Allez-y, toujours le plus dur, hein, c'est de prendre la parole, mais j'imagine que ça va se faire assez vite. Tatoul.
Bien, bonjour. Nous, moi, j'ai choisi ce projet parce que ça me rapporte beaucoup d'aide et tout. Ça me lance dans des idées et ça me ramène vers un projet sur lequel qui m'attire, que j'ai envie de faire.
Ok, les autres aussi, c'est un peu la même idée, le même état d'esprit. Comment vous avez pris connaissance justement de l'existence de ce projet-là, Nemati par exemple?
Moi, j'ai pris part à ce projet parce que j'aime bien passer du temps avec les gens. Et je voulais découvrir quelques personnes que je ne connais pas et j'ai fait vraiment des bonnes rencontres avec eux.
Alors,
grâce à ce projet.
On a Abdes qui représente la NEF ici et qui effectivement n'a pas encore pris la parole. La NEF intervient pourquoi dans ce projet?
Alors bonjour, du coup on intervient avec donc la NEF Prévention Spécialisée, on intervient avec tous les jeunes du secteur Soleure, Bellevue, Chaumaillère, des jeunes de 12 à 25 ans. Du coup on s'est rencontrés avec Thomas lors du projet, et l'idée en fait c'était en parallèle avec ce qu'on mettait en place sur Soleure, notamment sur l'emploi, avec la mission locale qui est présente un jeudi tous les 15 jours. Donc du coup on a parlé, on a dit peut-être que ce projet-là mènerait un petit plus aussi sur ce que les jeunes en fait qui se projettent et qui ne savent pas où s'orienter sur un métier en fait qu'ils entendent parler. Du coup, dans ce projet, c'était aussi l'idée de mettre en fait les jeunes face entre guillemets à leur orientation future, et l'idée aussi de découvrir les ondes, la radio, le job, enfin les podcasts avec Antoine et Thomas. Ça a créé une dynamique autour du groupe, autour du projet, et c'est vrai que ça permet à certains aussi de connaître des métiers, notamment la médecine, notamment les centres de formation qui peuvent exister. Donc voilà, et du coup on a essayé au fur et à mesure de créer une sorte de cohésion dans le groupe. Et le résultat aujourd'hui, il est autour de la table. 4 personnes qui ne se connaissaient pas au départ, et qui se retrouvent en fait à échanger, à discuter, à rigoler. Donc ça crée aussi une sorte de réseau social pour certains qui sont sur le quartier, qui ne se connaissent pas. Et du coup, grâce à ce projet, ils peuvent, entre autres, prendre du temps aussi en dehors de ce projet-là, quoi.
Effectivement, c'est un projet qui existe depuis quelques semaines. Maintenant, 2 sessions. Là, on est avec les participants de la seconde session, me semble-t-il. Alors, l'idée, effectivement, c'est de travailler aussi autour de la découverte de métiers, la découverte d'activités. Et au-delà de la discussion provoquée, c'est aussi, finalement, pourquoi pas provoquer des vocations et puis aussi s'ouvrir sur ce qui existe autour de nous. La première session, elle a eu lieu avec un autre groupe. Il me semble, Thomas, du coup, cet autre groupe, c'est celui qui est un peu essuyé les plâtres, si l'on prend cette expression-là. De la première expérience, que s'est-il passé?
Alors déjà, donc, le public, il va de 14 ans à 25 ans. Mais les attentes en fait, d'une personne de 14 ans et celles d'une personne de 25 ans ne sont pas du tout les mêmes en termes de maturité, de réflexion sur le projet professionnel. Donc l'idée qu'on a eue, c'était de faire une session pour les 14-18 ans, enfin 17 ans, et une session ensuite pour les 18-25. Donc on a débuté le projet fin 2024, et l'idée c'est d'alterner en fait chaque session entre chaque période de vacances scolaires. Donc ce qu'on a pu voir, c'est que sur la première session, donc avec les plus jeunes, c'était vraiment de la découverte, mais voilà, de la découverte un peu du milieu, du domaine professionnel, quoi, de manière très générale. Et ce qu'on peut voir avec les participants plus âgés, donc ceux qui sont présents aujourd'hui, c'est qu'il y a déjà une notion de ce que c'est le travail, de ce que c'est le domaine professionnel, et qu'on va sur des questions plus ciblées, plus précises. Mais je pense qu'ils pourront en parler un petit peu plus que moi.
Eh bien, tout à fait. Alors, Abdes?
Après, je voulais aussi rajouter sur la session 16-25 ans, il y a aussi la mission locale, notamment Marion, qui n'est pas présente aujourd'hui, qui a inscrit 2 jeunes, donc Taloul plus un autre jeune sur le projet. Et du coup, c'est aussi l'idée de faire aussi des relais entre nous, entre professionnels, qu'on ait, entre guillemets, une sorte de rapport, une sorte d'accompagnement un peu plus poussé. Quoi.
Ouais, et créer un réseau et des liens entre les différentes structures. Judith, tiens, je vous pose une question maintenant à vous. Vous êtes un peu plus âgé que les gens de la première session. C'est quoi votre vie de tous les jours en termes de formation, en termes de travail? Qu'est-ce que vous faites au quotidien?
Ben moi, déjà au quotidien, je fais l'animation sportive comme formation pour être animatrice à la longue. Et puis, j'aime aussi la danse.
D'accord.
J'aime un peu des trucs un peu trop bougés, quoi. Et puis, j'aime aussi un peu trop parler, mais là c'est normal pour tout le monde.
Voilà, c'est ça. Alors, et qu'est-ce qui vous a attiré dans le fait d'aller découvrir des métiers, d'aller rencontrer des personnes? Bon, est-ce que vous saviez déjà où vous mettiez les pieds, ou est-ce que vous avez découvert au fur et à mesure l'objectif final de ce projet-là? Expliquez-nous un peu comment vous l'avez abordé à la première réunion jusqu'à la réalisation.
Ben d'abord, premièrement, lorsqu'on m'a proposé de m'intégrer, bon, je me disais, bon, ça peut être aussi une occasion pour moi de pouvoir m'intégrer dans un groupe où il y a la prise des paroles, parce que généralement, ce n'est pas trop mon truc, en fait. Mais je me suis dit, bon, vaut mieux au moins briser la glace, quoi.
D'accord.
C'est un peu ça.
Et ça, c'est quand même un bel objectif de ce projet-là, c'est de prendre confiance un peu en soi, de prendre la parole. Maliki, vous, quand vous avez intégré ce projet, qu'est-ce que vous espériez au début?
Bonjour. Bon, au début, j'étais imaginé parce que j'étais imaginé qu'il va être bon choix pour moi. Bon, c'était un bon projet. Bon, c'est pour cela que j'ai participé au début. Bon, ça va.
Alors pour voilà, un projet bon, bénéfique pour tout. Parce que c'est des rencontres aussi. Hein. C'est des rencontres et vous aviez choisi pour votre session de rencontrer quelle personne. Expliquez-nous. Alors on l'écoutera hein, en fin d'émission. On écoutera le final, je le dis à nos auditeurs, le final de ce Jobcast hein, qui sera disponible aussi sur divers sites internet, notamment ceux des centres sociaux participants. Mais expliquez-nous qui vous avez rencontré et comment vous avez abordé les discussions avec ces personnes-là?
Ben, nous, on avait rencontré au début le formateur du école S2M qui était venu pour que nous, on l'interview, poser des questions par rapport à l'école et comment s'intégrer à la formation. Ensuite, il y a eu une autre jeune fille qui travaillait pour les personnes âgées en situation de handicap. Donc voilà, il y avait ces deux personnes qui étaient présentes au centre de Solor pour que nous, le jour, on puisse les interviewer pour savoir ce qu'ils faisaient de leur métier, en fait. C'était quoi leur but, en fait, ce qu'ils faisaient?
Voilà, la formation, etc. Nemati, des choses à rajouter, finalement, sur ces entretiens, comment vous avez reçu ces personnes-là, et puis comment se sont déroulées les différentes discussions que vous avez eues?
Premièrement, avec le monsieur de SDM, il m'a bien donné envie de rejoindre son centre de formation, car il avait des bons projets et... Franchement, c'est un bon centre de ce qu'il a parlé, c'était cool. Et pour la dame d'aide-soignante, ça se voyait qu'elle stressait, mais comme je suis dans le même cas, je la comprends. Et elle a bien parlé, on a bien discuté. C'était génial.
Voilà, alors du coup, effectivement, je l'ai évoqué tout à l'heure, je suis venu aussi participer à un de vos ateliers pour apporter peut-être mon expérience sur le fait de mener une interview, essayer de trouver un peu les pistes à suivre. Et là, je m'adresse cette fois-ci encore à Thomas et à Antoine. Travailler l'interview, travailler la rencontre qui sera enregistrée, c'est pas non plus très évident parce que c'est cette discussion n'est pas très naturelle. C'est ce qu'on fait à peu près aujourd'hui. Hein. On a un casque sur les oreilles et un micro devant lequel il faut bien parler. Alors, comment vous avez abordé la question? On a vu tout à l'heure, juste avant la réalisation de cette interview, un petit échauffement là pour prendre son souffle. Voilà, on sautille un peu sur place. Donc ça, c'est vos techniques, Antoine. Voilà, expliquez-nous un peu la préparation, le préparatif.
Alors, pour le coup, pour les ateliers, ils n'ont pas eu droit aux petits échauffements vocaux. C'est bien dommage. Je pense qu'on serait bien marrés. Non, là, c'était un petit truc pour travailler le souffle, pour se mettre un peu à l'aise. Alors, pour les sessions de Jobcast, on a eu beaucoup de chance déjà pour les rencontres. Parce que à chaque fois qu'on a eu des professionnels qui sont venus nous rencontrer, c'était des grands moments de partage. Par exemple, la première session avec les 14-18... On a interviewé du coup deux policiers qui travaillent au service de la communication à Saint-Étienne et une médecin. Et il se trouve que l'interview des policiers a donné suite à une visite du commissariat. Donc ça a donné du sens et du lien. Et c'était sympa de voir le groupe qui s'est formé autour de Jobcast se réunir à nouveau pour aller visiter les lieux. Donc c'était sympa. Et la discussion était assez fluide. Et là, pareil, comme l'a dit Nemati, on a reçu donc Patricia, la personne qui bosse pour l'aide à la personne. Et c'était super sympa. Ça a été vraiment des discussions très fluides et très à l'aise. Comment on a préparé les choses? Alors, du coup, donc le premier atelier, c'est une réunion d'explication. Le deuxième, c'est un peu l'atelier d'écriture. Donc, c'est là où on réunit les participants et participantes pour savoir ce qui les intéresse de découvrir dans le métier, essayer aussi de se mettre dans la peau d'un journaliste, essayer de se dire quelles questions sont intéressantes à poser, comment on va les formuler. Donc pour ça, on avait une heure et demie et c'est un peu court. Mais au final, tout va s'enchaîner de façon très fluide, puisque dès le lendemain, on va interviewer les professionnels en question. Et du coup, généralement, on a imprimé sur une feuille notre liste de questions, mais en fait, on ne les suit pas vraiment. Ça fait un petit moment où ça discute. Ça met toujours un petit temps pour se mettre à l'aise. Et puis après, on a nos deux sessions de montage, et ça, c'est plus entre nous. Et c'est là que ça commence vraiment à se détendre, à s'éclater un peu derrière les micros, à rigoler, à faire de la musique, donc voilà.
Oui, parce que l'idée aussi, c'est de faire un montage sur un podcast un peu attractif au niveau du format, donc je le rappelle, on l'entend à la suite de cette émission, donc là aussi, on va toucher un peu du doigt la MAO, musique assistée par ordinateur, pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, Thomas, et je crois qu'Abdès aussi voulait réagir sur le fait que dans la continuité, notamment cette visite du commissariat, sans cette première rencontre provoquée, la seconde n'aurait jamais eu lieu.
Effectivement, c'est vrai que le fait d'avoir reçu les deux commissaires pour l'interview, ça a ouvert derrière sur une visite au commissariat, je crois que c'était 3 ou 4 semaines plus tard. Ouais. On avait 4 jeunes au niveau de la prévention spécialisée de la nef de 14-15 ans et 4 filles, je crois, ou 3 filles du centre social, pareil, du même âge. Et on a passé l'après-midi, en fait, au commissariat de police Courfauriel, donc avec la visite de police secours, de la BAC, puisque beaucoup de jeunes aussi voulaient rencontrer ce type de... Enfin, la police de la BAC pour voir un peu leur métier, tout ça. Donc on a vraiment bien été accueillis. Et puis les jeunes aussi ont pu découvrir autre chose au niveau des métiers de la police, des personnes humaines, des personnes qui nous ont bien reçus, on a même fait un goûter, donc c'était vraiment super sympa, vraiment de découvrir la police. On y va aussi parce que on n'y va pas parce qu'on a des problèmes, on y va aussi parce qu'il y a des choses aussi qui sont derrière, il y a des métiers, on découvre plein de choses. Donc du coup, ça a été super sympa de pouvoir, dans ce projet-là, de visiter le commissariat de police.
Voilà, et dans la même ordre d'idée, vous venez ici dans les locaux de Radio Ondaine, parce que je suis venu aussi, un moment donné, participer, c'est la continuité. La continuité, ça appelle des suites. Alors, Thomas, c'est podcast, Jobcast, où est-ce qu'ils seront disponibles par la suite?
Alors, les podcasts, du coup, on pourra les retrouver bientôt sur donc le site du centre social de Solor. Une fois qu'ils seront ajoutés sur le site par je sais pas trop quelle manipulation technique, ils seront rediffusés sur pas mal de plateformes comme YouTube, Spotify, Amazon, je crois. Enfin voilà, sur différentes plateformes, quoi. Dès qu'on les poste sur le site de Solor, du coup, après, ils sont redispatchés.
Donc ça sera fait. Ils seront largement diffusés. Et qu'est-ce qu'on en fait ensuite en termes d'accompagnement et vous, dans votre rôle de travailleur social au relais emploi?
Bah nous, c'est des super outils du coup, hein, qui sont faits par les jeunes, pour les jeunes. En fait, ça permet du coup à d'autres personnes, à d'autres jeunes qui sont intéressés par les métiers sur lesquels des interviews ont été réalisées, et de se renseigner, en fait, de s'informer. Donc nous, c'est voilà, au niveau de la transmission, de l'information et du partage, quoi, c'est super.
Abdes.
Du coup, dans la continuité aussi de Jobcast, il y a la diffusion sur les plateformes. Je pense aussi qu'il y a une diffusion qui sera aussi sur le 10 avril, notamment au Forum de l'Emploi, qui se déroule. Donc, c'est la deuxième session sur cette année. C'est aussi une continuité par rapport à ce projet-là, du coup, de valoriser ces interviews. Et l'idée, en fait, par rapport à ce Forum Emploi, c'est aussi d'ouvrir un peu à tous les quartiers de Saint-Etienne pour venir trouver du travail, faire un CV, lettre de motivation.
Une formation.
Donc voilà, c'est aussi le plus de ce projet Jobcast aussi.
Voilà, c'est réinventer finalement un moyen de se renseigner sur les formations, un moyen de découvrir des métiers. Et pour les participants, on l'a entendu, hein, c'est une manière un peu de s'émanciper, de prendre confiance en soi. On va terminer d'ailleurs cette émission-là de présentation de Jobcast par le conseil que vous donneriez, vous participants, à des personnes à qui on proposerait de réaliser un nouveau Jobcast. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire? Dans quel état d'esprit faut venir? Et puis, de l'expérience que vous avez, qu'est-ce que vous en retirez aujourd'hui?
Ceux qui veulent faire un métier comme dans la vente commerce, par exemple, il faut se donner à fond, être dynamique, sérieux. Il faut aller toujours au bout des choses. Jamais reculer et éviter les erreurs surtout. Et ça arrive des fois, l'erreur est humaine, mais il faut toujours aller à l'avance et se donner à fond. Comme j'ai toujours dit, faut être motivé.
Faut être motivé. Vous étiez motivé pour réaliser ça. Quelqu'un d'autre veut prendre la parole pour terminer cette émission?
Moi, comme conseil, je donnerais aller à des rendez-vous organisés sans connaître les personnes, c'est bien parce que tu découvres des choses que tu connaissais pas, des personnes que tu connaissais pas, et même des métiers à quels tu t'attendais pas à faire. Et peut-être que dans l'avenir, tu aimerais t'orienter vers ce métier et tu t'en souviendrais comme, par exemple, tu as déjà eu un peu... un petit goût avant de ce que c'est ce métier, et tu pourras t'orienter plus facilement. Et donc franchement, ça a été une bonne expérience à vivre, et s'il le fallait, je le referais.
Et parfait. Qui d'autre veut rajouter quelque chose, Judith?
Moi, du coup, je vais m'adresser aux personnes timides. Pour des personnes timides, je vais recommander de bien essayer, d'avoir du courage, parce que moi, de base, je suis timide, bien que personne ne va les croire. Voilà. Et puis, ça aide vraiment à avoir des prises de parole en public ou ailleurs. Ça aide vraiment, en tout cas, parce que c'est aussi des opportunités à ne pas louper aussi, quand même.
Voilà. Et Maliki, pour le mot de la fin?
Pour moi, c'est un bon projet. Je veux dire, c'est un conseil pour moi. Il faut qu'on motive. On ne laisse jamais les bras.
Ne jamais baisser les bras. Voilà. Alors moi, je propose à nos auditeurs de terminer cette émission par l'écoute des deux podcasts réalisés à l'occasion de ce projet Jobcast. Merci à tous, merci à vous sept d'être venus dans les studios de Radio Onden pour nous présenter ce projet, et à bientôt.
Merci.
Merci, à bientôt.
Merci. Merci.
Jobcast.
Bienvenue sur Jobcast. Le but de cette émission, c'est d'interroger des professionnels pour découvrir leur métier et leur parcours. Aujourd'hui, dans cet épisode, nous recevons Patricia, qui travaille dans le domaine de l'aide à la personne.
Patricia, c'est quoi le métier de l'aide à la personne?
Le métier aide à la personne, c'est un métier qui pour aider les personnes âgées. parce qu'ils sont plus comme nous, le jeune, qui marchait bien. Il faut qu'ils nous aident là pour aider les personnes.
Qui peut exercer ce métier et quelles sont les qualités requises?
Pour moi, les qualités de ce métier, c'est patiente. C'est vraiment une qualité parce que les gens, les personnes âgées, il y a des difficultés de temps en temps. Donc, patiente, c'est une bonne qualité pour eux. Et aussi, écoute, l'écoute à la personne, à son besoin aussi. Les personnes qui peuvent exercer sur ce métier, ben c'est pour tout le monde. Pour moi, c'est pour tout le monde. Sauf que les personnes de 50 ans, 60 ans, elles ne peuvent plus parce qu'il y a les difficultés aussi. Et aussi, bon, les personnes, il a besoin aussi. Il y a les risques, en fait. Il y a les risques pour les personnes, comme les déplacements pour une personne. Si tu ne peux pas déplacer la personne avec son chaise roulant ou bien avec son canne. Donc, il y a les risques. Pour moi, il y a les risques de ça, d'apporter des gens. Il faut savoir comment apporter une personne âgée pour faire sortir.
Quel est votre parcours?
Mon parcours, c'est que j'étais travaillé dans mon pays. Mon pays, c'est Suriname. Mon pays d'origine, c'est Suriname. J'ai été travailler là-bas dans une orphelinat. Après, quand je me suis arrivée ici, à fond, je n'ai pas de papier. Autant que je trouve papier, j'ai passé à mission locale. J'avais un petit problème et j'ai déménagé à Metz pour venir à Saint-Étienne. Et j'ai commencé à faire ma demande à Pôle emploi. Et Pôle emploi m'a envoyé à IFPA. IFPA m'a formé pour passer à Nakara. Et j'ai suivi Nakara pour devenir aide à domicile.
Quelle formation avez-vous suivi?
J'ai suivi Nakara. J'ai commencé à faire accompagner par IFPA. Et IFPA il m'a formé pour passer à Nakara. Et j'ai suivi Nakara de 3 mois. C'est juste une formation aide à domicile. Il y a aide à domicile et il y a aussi formation petite enfance. Et moi, je prends les côtés d'aide à la personne.
Oh, okay.
Parce que c'est mieux.
Et vous avez fait combien de temps à IFPA?
J'ai fait 3 mois à IFPA.
Ok.
Avez-vous trouvé du travail rapidement après la formation?
Oui, parce que Nakara, quand ils te suivent, ils t'ont laissé faire un stage dans comment ça s'appelle? Ils t'ont fait les formations peut-être avec Onela, il y a ABC, il y a beaucoup d'endroits. Et autant que tu fais les stages avec eux, tu peux signer un contrat direct après. Parce que autant que j'ai fini mon formation en novembre et j'ai commencé à travailler en décembre.
Quels sont les avantages et les difficultés du métier?
Bon, pour moi, les avantages, c'est ça dépend. Ça dépend en fait. Et les difficultés aussi, ça dépend. Mais pour moi, les avantages, pour moi, c'est que j'ai des enfants. Donc, j'ai m'organisé. Autant que j'ai signé mon contrat. Et là, j'ai organisé comment je peux faire avec mes enfants et tout. Voilà. Et les difficultés, c'est les remplacements. Parce qu'il y a beaucoup de remplacements. Aussi, pour moi, les difficultés, c'est vraiment, vraiment les remplacements. Parce que tu peux remplacer une personne, la personne, elle n'est pas au courant. Tu peux arriver, elle a dit, ben, je ne suis pas au courant, je ne vais pas en remplacement. Va aller dehors. Tu peux arriver, la personne, elle ne te souvient plus, elle peut te mettre dehors. Il faut avoir la patience pour parler avec elle jusqu'à ce qu'elle te comprend. Il faut lui monter tes tenues. Oui, franchement, c'est là la difficulté.
Quelle est votre journée de type?
Bon, ma journée de type, je vous donne un exemple aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai travaillé, actuellement, j'ai travaillé pour deux personnes et j'ai un remplacement. Et mon travail, c'était à 9h à 11h, midi 20, à 1h, 13h20. OK. Et j'ai commencé à 13h30. Et les 13h30, qu'est-ce que je me fais? Parce que je ne peux pas arriver chez moi pour retourner au travail. Parce que c'est un peu tôt. Qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas quoi faire à cet temps. Je prends le tram. J'ai allé assis un peu à centre 2. J'ai tourné. Après, j'ai parti au travail. Autant à 9h là, j'ai fait le ménage, passé balai, ranger les trucs de monsieur, balai ou bien aspirateur, s'il a un aspirateur, on passe l'aspirateur, s'il n'a pas. On fait son lave-vaisselle, s'il n'a pas, OK. Et après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai lavé le sol. J'ai occupé son chat. Son chat, il est un peu malade, mais quand même. J'ai nettoyé son cage et ramassé les trucs sales. J'ai mis un nouveau. OK. Le deuxième, c'est juste pour faire ménage, balai, laver et balai. Mais lui aussi, il acceptait pas trop. Il accepte pas autant que son cousin il est pas là. Il m'a mis dehors. OK. L'autre, je dois passer pour faire pour cuisiner. Elle est pas contente à l'heure qu'il m'a donnée. Donc, je suis retournée à la maison.
Bienvenue sur Jobcast.
Mais du coup, après avoir fait les tâches ménagères, vous partez directement ou vous restez jusqu'à ce que vos heures soient finies?
Oui.
Vrai.
Tu vois, par exemple, je dois travailler à 9h à 11h. Mm-hmm. Donc, tu fais un ménage à 9h à 11h. S'il n'y a pas autre chose, ben, il faut attendre.
On attend jusqu'à ce que les heures soient finies.
Oui, parce qu'il y a un numéro fixé au temps que tu es arrivé. Mm-hmm. Tu composais ce numéro.
Oui.
Et tu fais autant d'arrivée et autant de départ.
Et tout à l'heure, vous avez parlé de garder deux personnes. Je voulais savoir si vous les gardez en même temps ou vous coupez, après vous allez voir l'autre.
Oui, parce que chacun vit dans sa maison.
Comment est organisé votre planning? Vous travaillez en journée, le soir, la nuit, les week-ends?
Pour moi, je ne travaille pas dans le week-end parce que j'ai des enfants et je suis seule avec mes enfants. Donc, je ne travaille pas le week-end et les nuits. Je travaille que la journée. Et c'est mon patron qui m'a envoyé mon planning pour les mois. Et il y a les horaires qui sont fixés sur le planning à la demande pour la personne qui la personne elle demande. Mais c'est le patron qui gère les plannings, mm-hmm. Qui a besoin d'aide, tu fais ton demande à Onela ou bien l'autre. Et il prend et il demande aussi quelle heure il voulait et quelle date il voulait. Donc c'est comme ça, si il voulait tous les mardis à 14h, mm-hmm. Ils mettent sur les plannings tous les mercredis, tous les mardis à 14h. Et si il y en a qui veut 3 fois par semaine,
oui.
Il met 3 fois par semaine, lundi, mercredi et vendredi. Et oui. Il demande aussi les horaires qu'il veut à ce temps. Donc c'est comme ça les plannings.
Et ils ne peuvent pas être changés, ils restent comme ça.
S'il voulait changer, il peut changer, il peut demander. Et si ton planning, comme par exemple, bon, j'ai dit un exemple à moi.
Oui.
Si mon planning, bon, le lundi, après 13 heures, j'ai personne d'autre. Donc, si la personne, il voulait que j'ai travaillé après, je peux travailler après.
Même si ça ne vous convient pas.
Ouais, si ça ne me convient pas, si j'ai quelque chose après, je peux dire, j'ai quelque chose après.
Ah, okay.
Je ne peux pas passer. Ce n'est pas une obligation, en fait. Mm. Voilà. Ça, bon, c'est toi et la patiente qui gère ça.
Comment vous faites pour leurs besoins, par exemple, leur sel ou un moment de pause ou sortir un peu, comment vous faites? Vu que ce sont des personnes âgées, ils sont un peu trop compliqués à ce que je sache.
Bon, il y en a qui sait qu'est-ce qu'il voulait au magasin. Et si il t'a dit quelque chose, tu prends un stylo et tu notes qu'est-ce qu'il a besoin. Par exemple, il a besoin de l'huile, les courses. Ok, tu notes. Après, il t'a donné son carte bancaire ou bien l'argent et tu as acheté ses affaires. Et tu viens avec les tickets et tout, tu l'as donné tout. Voilà. Et voilà. Et s'il voulait aussi, elle peut venir avec toi. Tu peux l'accompagner. Elle choisit qu'est-ce qu'elle voulait. Jusqu'à la fin, on part à la maison.
Est-ce que vous sortez, par quel moyen de déplacement vous faites, je ne sais pas, voiture, ou bien sa famille vient, vous partez avec eux, ou bien vous prenez les trams ou les bus?
Bon, les personnes que j'ai fait sortir avec eux, ils habitent à côté du magasin. Ou bien, j'ai pas de permis de conduire, donc je ne peux pas déplacer en voiture, mais si tu as un permis de conduire, tu peux déplacer. Il y a le voiture aussi dans le... on est là, il y a les voitures aussi qui peuvent être prêtées pour accompagner une personne à ses besoins. Comme par exemple, il voulait aller au rendez-vous chez le médecin. Tu peux l'accompagner, tu l'attends jusqu'à la fin et tu retournes avec elle à la maison. Tu vas déposer les voitures.
Quel est le salaire?
Mais le salaire, c'est 11 euros par l'heure. Mais je ne sais pas. Les temps de trajet aussi, ils sont payés. Ils sont payants. Et c'est 50% aussi les cartes de bus. 50% aussi.
D'accord.
Et je crois, 50% aussi les gasoils. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Voilà, c'est 50% aussi.
Qu'est-ce que vous aimez dans votre travail?
Bon, dans mon travail... Déjà, j'aime bien les personnes âgées. Ils parlent avec toi, on parle un peu. Et puis aussi, quand je suis au travail, je sens tellement bien. Autant que je n'ai pas ma grand-mère à côté de moi. Et j'ai placé à la place de ma grand-mère. Et je sens tellement bien. Ça me fait bien, ça me fait plaisir d'aider aussi les gens. Qu'est-ce qui me plaît dans mon travail? C'est que je ne m'ennuie pas pour les gens. Parce que ça aussi, c'est un truc. Et si tu restes pendant trop de temps avec une personne qui te dit la même chose, t'as répété, après tu vas ennuyer. Et si tu travailles 2 heures ici, tu quittes. Tu vas là-bas, tu travailles 3 heures ou 2 heures. Tu vas là-bas, tu t'ennuies jamais. Ça, bon, pour moi, je ne m'ennuie pas. Je me sens bien, je me sens à l'aise. Voilà.
Qu'est-ce que tu n'aimes pas dans le travail?
Qu'est-ce que j'aime pas? C'est les personnes qui avaient les Alzheimer bien, je sais pas comment on dit, mais c'est trop en fait. Il y a parfois, tu as dit les trucs qui peut te faire peur. Il y en a qui dit ouais, j'ai vu ma fille et sa fille, elle a décédé pendant 5 ans. Il y en a qui te dit ben, je te connais pas, va dehors. J'ai dit oh, comment je peux faire pour rentrer parce qu'elle a besoin de moi. Il y a les choses que je dois l'aider. Comment je peux faire entrer? Et là, tu parles, tu demandes. Après, elle t'a dit je te connais pas. Ben, tu pars. Il y a pas l'autre solution, mais t'as besoin, elle a besoin de toi. Aussi, quand tu t'arrives, la personne, elle crie sur toi. T'as rien fait. J'aime pas trop, parce que ça me fait peur un peu. Mais j'ai fait un peu la force pour parler avec elle, pour arriver à trouver à l'entrée, parce que je sais qu'elle a besoin de moi. Mais c'est pas elle qui me fait retourner, c'est son maladie.
Conseillez-vous ces métiers à quelqu'un d'autre?
Oui, bien sûr, parce que ils sont de nos parents qui ont besoin de nous. Donc je conseille quelqu'un d'autre pour l'aider les personnes. Moi j'ai dit notre parent.
Quelles sont les évolutions professionnelles dans cette branche?
Bon, tu peux repasser ton formation pour devenir aide-soignant ou bien infirmière. Ou bien tu peux passer aussi devenir un nounou. C'est aussi une partie de ce métier.
Je te remercie d'être là. Merci d'être venu et d'avoir répondu à notre question.
De rien. Il n'y a pas de quoi. Merci.
C'est la fin de notre épisode sur les métiers de l'aide à la personne. Merci à Nemati, Judith, Mokhtar, Tatoul et Malik d'avoir écrit et posé ces questions. Merci à Patricia d'être venue y répondre. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de...
Jobcast.
Bienvenue sur Jobcast. Le but de cette émission, c'est d'interroger des professionnels pour découvrir leur métier et leur parcours.
Aujourd'hui, nous recevons Aziz Omari pour lui poser des questions sur l'organisme de la formation SDSM.
Bonjour. Qu'est-ce que c'est SDSM?
Alors, S2M Formation est un organisme de formation spécialisé dans la formation par alternance et dans la formation continue.
Qui peut s'inscrire à S2M?
Alors, S2M Formation concerne un large public qui est entre 16 et 29 ans, mais nous n'avons pas que des élèves de 16 et 29 ans. D'autres personnes qui veulent certifier leurs compétences peuvent s'inscrire aussi au niveau du centre de formation.
Pour les personnes qui ont déjà leur expérience et qui veulent se certifier, vous arrêtez à un âge précis ou...
Non, pas forcément. Lorsqu'il y a un projet, en l'occurrence pour un projet de création d'entreprise, je vous donne l'exemple,
oui. Ou
pour une personne qui est en reconnaissance en tant que travailleur handicapé, il n'y a pas de limite d'âge. C'est-à-dire qu'une personne qui est en CDI dans une entreprise peut mettre une pause à son CDI pour le transformer en contrat d'apprentissage, le temps d'être diplômé. Une fois diplômé, il retrouve son CDI tel qu'il l'avait laissé, mais avec un diplôme en plus.
Et qui sont les formateurs?
Alors, nous avons une équipe de formateurs qualifiés et formés qui ont suivi des formations spécifiques dans le milieu qui les concerne. Étant donné qu'on est spécialisé dans la vente, dans la restauration, le management et la gestion administrative, chacun de nos formateurs a une spécificité au niveau de son domaine.
Quel est le programme de formation?
Alors, nous avons plusieurs types de programmes de formation. En l'occurrence, étant donné qu'on est vraiment basé sur le milieu de la vente et du commerce, nous sommes aussi, nous avons un programme lié au management des équipes. Nous avons aussi un module qui est spécifié dans la gestion administrative. Et enfin, le dernier qui est dans la négociation relation client.
Quel est le rythme planning?
Alors, le rythme, en fait, c'est justement l'un des atouts de cette formation, c'est-à-dire que ça reste une formation donc certifiante et diplômée, mais avec un programme très léger, c'est-à-dire que qui s'étale sur 12 mois, d'accord, à hauteur d'une journée de cours par semaine. Donc, en quelque sorte, pour résumer, dans un contrat d'apprentissage, il faut savoir qu'un contrat d'apprentissage est constitué de 35 heures. Mais les 35 heures se constituent de telle manière à ce que vous ayez 27 heures en entreprise, plus 8 heures en cours. Donc, ce qui fait 35 au total.
Quelles sont les entreprises partenaires ?
Alors, question très intéressante. Étant donné qu'on est dans une multitude d'activités, nous disposons d'un très gros réseau d'entreprises, en effet, et toutes les entreprises aujourd'hui signent comme une sorte de contrat de partenariat. On travaille avec les Carrefour, on travaille avec Claire's, Miss Cookies, beaucoup de commerces de proximité en l'occurrence, une multitude. Pour vous les citer, il me faudrait un peu plus de 2 heures, je ne vous le cache pas. Mais on a beaucoup d'entreprises partenaires en effet. Et si je vous dis que chaque semaine, il y a à peu près 3 entreprises qui souhaitent rejoindre notre réseau.
Doit-on trouver d'entreprise avant ? Et les conseils pour en trouver une ? Est-ce que vous avez un réseau de partenaires pour les futurs jeunes ?
Question encore très intéressante. Alors, en effet, nous encourageons nos différents apprentis à chercher de par eux-mêmes, parce que c'est une excellente initiative et ça vous entraîne à intégrer le monde du travail. Cependant, en effet, nous disposons d'un réseau aussi. On voit que le jeune galère un petit peu à trouver, mais qu'il a passé les différentes étapes. Je vous donne un exemple. Vous cherchez pendant 2 semaines, mais vous vous levez tôt le matin. Il faut se lever le matin, il ne faut pas attendre l'après-midi. Et qu'on réalise tous vos efforts. En effet, une fois que cette étape est validée, nous disposons d'un réseau d'entreprises qui est prêt à vous accueillir. Donc, il n'est pas obligatoire d'avoir une entreprise. C'est-à-dire que déjà, il faut faire la démarche d'en chercher. Et si vous ne trouvez pas, on se fera un plaisir de vous en trouver une. Alors, je me permets, en effet, étant donné que je suis beaucoup à l'écoute des entreprises et surtout au niveau des employeurs, parce que c'est ceux qui sont concernés. Alors, un conseil, c'est que déjà, surtout quand vous cherchez dans le milieu de la vente, mais peu importe, n'importe quel milieu, il y a certains codes à respecter dans le milieu, dans la recherche de travail. Et en l'occurrence, c'est vrai que c'est très appréciable de recevoir un CV le matin, parce que quelque part, vous prouvez à votre employeur que vous êtes quelqu'un qui se lève tôt pour chercher son travail et qui n'attend pas les après-midi. Après, il y a d'autres conseils qui sont liés à ce qu'on appelle le savoir-être. Le savoir-être, qu'est-ce que c'est ? C'est déjà le premier impact. Quand vous allez rencontrer un employeur, le premier impact, il est visuel. Comment je le vois ? Donc c'est vrai que, je vous donne un exemple, vous cherchez un travail dans la parfumerie, vous vous présentez en survêtement, basket, casquette. À votre avis, est-ce que vous pensez qu'il va accepter votre... Non. Il y a d'autres aussi points qui sont essentiels. Exemple, la présentation de votre CV. Si vous le pliez en 4 dans votre poche et que vous le donnez à votre employeur, il ne l'acceptera pas, peu importe son contenu. Vous voyez ? Alors, il y a beaucoup de conseils comme ceci. C'est vrai que chaque élève qu'on accueille, on réserve à peu près 16 heures sur le fait de préparer l'élève avant l'entretien.
Pouvez-vous nous décrire chacune des formations ? Le débouché, le prérequis, commerce, vente, restauration.
Alors, en effet, nous proposons, je vais les mettre dans l'ordre en termes hiérarchiques, c'est-à-dire qu'au niveau restauration, nous proposons un titre professionnel agent de restauration, d'accord, qui est un niveau CAP. Attention, il faut savoir que les diplômes que l'on propose, ce ne sont pas des diplômes éducation nationale, mais des diplômes qui sont proposés par le ministère du Travail et de l'Insertion, d'accord. Donc, c'est des cursus, en effet, de 1 an. À hauteur d'un jour de cours par semaine et le reste en entreprise. Alors, au niveau de la restauration, j'ai d'excellents exemples, d'accord. En l'occurrence, j'ai un élève qui a terminé son cursus il y a 1 an et demi et qui est chef de cuisine chez Californian Burger. Très bel exemple. Et qui gagne un bon salaire actuellement. Alors, on a les agents de restauration, en effet. La majorité, il faut savoir qu'au niveau de la restauration, on atteint les 95% de taux de réussite au niveau du diplôme. 100% de ces élèves, pour vous dire, parce que le milieu de la restauration, c'est un métier, ce qu'on appelle un métier sous tension, c'est-à-dire que les employeurs ont beaucoup de mal à recruter dans la restauration. 100% de ces élèves se voient proposer un CDI à la fin de leur formation. En l'occurrence, ce fameux élève que j'ai pu recevoir, lui, il a évolué dans un restaurant. Du fait qu'il a super bien évolué, il y a un chef de restaurant qui est venu et qui a demandé le major de promotion, c'est-à-dire celui qui a eu la meilleure note à l'examen, pour avoir un poste tout de suite de chef de cuisine. Oui. Après, on a le titre professionnel. Alors, comme je vous disais, c'est toujours tous nos diplômes. C'est un jour de cours, un an. Ça dure qu'un an. Et c'est rémunéré. Après, on a le titre professionnel conseiller de vente. Celui-ci, il est de niveau 4, c'est-à-dire niveau bac. D'accord ? Donc, celui-ci, un jour de cours par semaine, pareil. Un an. D'accord ? Les prérequis, en l'occurrence, alors, pour la restauration, on exige uniquement un niveau A2. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le niveau A2, niveau français. Et un niveau 3e minimum avec obtention du brevet. Si vous n'avez pas eu le brevet, vous pouvez arriver d'un autre pays qui n'a pas exactement les mêmes codes que chez nous en France. On va demander un niveau A2, c'est-à-dire niveau A2, c'est l'office d'immigration qui attribue ces niveaux. C'est un niveau au niveau français. Je comprends le français, je sais me faire comprendre, d'accord ? Je sais écrire, mais sans orthographe, sans la grammaire spécifique, mais je sais au moins prendre une prise de notes si je dois m'occuper du service, d'accord ? Au niveau du titre professionnel conseiller de vente, nous avons en effet, on fait un test, celui-ci, parce que ça reste un niveau bac. Donc on a un test de prérequis hein, qu'on administre à chacun des élèves. Celui-ci, au niveau prérequis administratif, vous avez besoin du brevet des collèges, d'accord ? Donc forcément, ou si vous venez d'un autre pays, le niveau A2, d'accord ? Et le test de positionnement qui est en interne chez nous. On doit évaluer si vous avez le niveau pour qu'on vous conduise jusqu'au diplôme. On ne vous demande pas d'être un vendeur, attention. Hein. On se demande uniquement si vous avez les capacités d'aller jusqu'au diplôme. Je vous donne un exemple. Vous ne savez pas faire une addition. Vous ne savez pas faire une multiplication. D'accord ? Ou un autre point, sincèrement, il faut commencer déjà par apprendre les maths avant de faire de la vente. D'accord ? On ne pourra pas vous réenseigner les rudiments élémentaires. Donc forcément, on est obligé de vérifier votre niveau. Mais pour vous dire, j'ai des élèves, par exemple, actuellement, qui ont 15 ans et demi. Et qui se présente pour un titre professionnel conseiller de vente niveau bac. Et ça se passe très très bien. En l'occurrence, pour le titre professionnel, la plus grosse des valeurs qu'on va juger, c'est la détermination. Voilà. Après, on a les niveaux BTS. Donc forcément, toutes les élèves qui ont obtenu le diplôme titre professionnel conseiller de vente chez nous peuvent se présenter au niveau BTS. Pareil, le BTS, c'est un an, un jour de cours. Donc nous avons un BTS Management des unités marchandes et nous avons un BTS Négociation Relations Clients. D'accord ? Donc ces deux BTS sont en fait la suite logique du titre professionnel conseiller de vente. Là, par contre, il faut avoir un niveau bac ou avoir être en possession du titre professionnel conseiller de vente pour pouvoir intégrer une classe.
Quel est le quotidien de ces jeunes qui travaillent dans ces domaines-là ?
Alors, le quotidien de ces jeunes, il faut savoir une chose, c'est que le statut d'un apprenti, il faut bien savoir une chose, c'est qu'un apprenti répond aux droits et devoirs d'un salarié classique, d'accord ? Donc, en quelque sorte, c'est une excellente immersion dans le milieu du travail. C'est-à-dire que c'est le quotidien d'un salarié. Tout simplement, sauf qu'il a les atouts d'un étudiant. C'est-à-dire qu'une fois par semaine, il va aller en cours. En général, ils sont tous pressés de rattaquer les cours. Je ne vous le cache pas, d'accord ? Mais ils répondent exactement aux mêmes exigences qu'un salarié classique. Sauf qu'un apprenti dispose dans l'entreprise, hein, je dis bien dans l'entreprise, de ce qu'on appelle un maître d'apprentissage. D'accord ? Le maître d'apprentissage, c'est qui ? C'est le patron de, je vous donne l'exemple, Carrefour. L'exemple de Carrefour. Le patron de Carrefour veut désigner la personne qui a le plus d'expérience dans le magasin pour accompagner l'apprenti, d'accord ? Donc il va apprendre le facing, comment on établit un rayon, comment on met en avant une promotion, comment on met en avant une opération de fidélisation, d'accord ? Il va lui apprendre tout ça, donc indirectement, je mets les guillemets, c'est le professeur de l'élève, mais dans l'entreprise, d'accord ? Donc, quelque part, il est aussi élève. Mais je vous admets que la majorité des entreprises demandent une autonomie, c'est-à-dire qu'il faut que vous arriviez à l'autonomie. On ne va pas vous tenir la main tout le long du cursus. Hein. C'est pour ça qu'il y a une période de 45 jours dans chaque contrat d'apprentissage. 45 jours, ça équivaut à 2 mois. C'est-à-dire que le patron se dit, je donne 2 mois à ce jeune pour qu'il devienne autonome. D'accord ? Et après, le reste de l'apprentissage, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez constituer un dossier que vous allez présenter à un jury en fin d'année. Le jury est nommé par le ministère du Travail. Donc, ce n'est pas des gens qui travaillent pour nous. Je vous donne un exemple. Récemment, on avait le patron de tous les magasins Gémeaux et la patronne de tous les magasins Kiabi qui est venue juger nos apprentis. D'accord ? Donc, en fin d'année, vous avez un diplôme. Et en effet, le ministère, un mois après l'examen, vous dit vous l'avez eu ou vous ne l'avez pas eu ou vous l'avez obtenu partiellement.
Quels sont les pays des rémunérations ?
Alors, très bonne question au niveau des rémunérations. Il faut savoir une chose, c'est que les rémunérations, c'est ni le centre de formation qui choisit, c'est ni l'employeur. C'est le ministère du Travail qui a établi 4 grilles, d'accord ? Il y a 4 manières de rémunérer un apprenti. Ces 4 grilles, qu'est-ce que c'est ? Les 16 jusqu'à 18 ans, d'accord, sont rémunérés, je l'ai noté, à 486 euros net, d'accord, par mois. Après, vous avez les 18-21 ans. Les 18-21 ans sont rémunérés à 774 euros par mois. Après, vous avez la catégorie au-dessus, c'est-à-dire les 21-25 ans. Ceux-là sont rémunérés à 954 euros, d'accord. Et enfin, la dernière catégorie, la plus gracieuse, eux, les plus de 25 ans, voire 26 ans, sont rémunérés à 1800 euros. Donc, ces 4 grilles... OK. C'est l'employeur qui vous paye. Attention, c'est pas le centre de formation qui vous paye, c'est l'employeur chez lequel vous évoluez qui va vous payer. Bon, il a des aides aussi de l'État, c'est important de savoir, mais lui, quoi qu'il en soit, pour 27 heures travaillées chez lui plus 8 heures de cours, il vous rémunère selon les grilles que je viens de vous citer. Voilà.
Est-ce qu'on trouve facilement un travail après la formation ?
Alors, en effet, oui, on trouve facilement du travail après la formation. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est qu'en fait, aujourd'hui, il y a une réelle crise du travail au niveau en France. C'est-à-dire que les employeurs trouvent du monde, mais le problème, c'est que les jeunes ne restent pas très longtemps dans l'entreprise. Donc, en général, quand un employeur a trouvé un bon salarié, il fait tout pour le garder. Je vais vous donner un chiffre très rapide. Il faut savoir que déjà au niveau titre professionnel conseiller de vente, je ne vous ai pas donné les chiffres, mais on est à 90% de taux de réussite par rapport au diplôme. Sur ces 90%, d'accord ? Sur ces 90%, 89% se sont vus proposer un CDI. Les 11% restants, c'est des gens qui ont dit non, je ne veux pas de CDI, je veux poursuivre en BTS. Vous voyez ? Mais... en quelque sorte, c'est presque 100%. C'est-à-dire qu'un patron, dès qu'il voit qu'un jeune a évolué pendant 12 mois chez lui, ça s'est super bien passé, jamais en retard, présent, toujours efficace, et que ça s'est super bien passé, il est pratiquement à 100% qu'il se voit proposer un CDI derrière. Voilà. Donc, en effet, il y a beaucoup de débouchés. Dans la restauration aussi. Je ne vous cache pas, la restauration, les patrons attendent la fin des examens pour se présenter à la sortie de l'école, pour proposer des embauches, pour vous donner un peu l'ordre d'idée. Et en conseiller de vente, j'ai certaines enseignes qui me demandent les majors de promotion. Qui est arrivé premier de la classe, on le veut tout de suite et on l'embauche tout de suite, dans des conditions intéressantes. Mais en effet, il y a de gros débouchés. Je vous donne un exemple très rapidement. J'ai une jeune fille... il y a un an et demi à peu près, qui s'est présenté, qui a évolué dans un magasin de robes de mariée. C'est même une fierté pour moi. Et elle a été recrutée par la maison Hermès. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est de la haute couture. Donc ils sont venus la chercher de Lyon jusqu'à notre centre de formation et ils l'ont recrutée directement. Donc des fois, ce n'est même pas vous qui cherchez, c'est l'entreprise qui vient à vous. Voilà, donc c'est bien.
Bienvenue sur Jobcast. Quelles sont les conditions d'inscription et de motivation des candidats ?
Alors, très intéressant. Les conditions d'inscription, c'est tout simple. Vous prenez rendez-vous, tout simplement. On analyse votre candidature, d'accord ? Vous avez un entretien spécifique qui va au total durer une heure et qui se décompose de telle manière. Donc, vous allez présenter vos motivations. Il y aura certaines questions. Une présentation du centre de formation vous montrera le cadre de la formation et ce qu'on attend de vous. On va un peu parler de vous. Et puis, logiquement, on va terminer sur un accord. Un accord de principe qui va dire oui, vous allez dire oui, ça m'intéresse énormément et je suis prêt à respecter le cadre de la formation. Et nous, on va vous dire eh bien, très bien, vous avez. Et puis il y a une deuxième étape, excusez-moi, qui consiste à un test, d'accord, d'une trentaine de questions très accessible. Alors, quand on fait la fusion de votre entretien plus le test, en 24 heures, on vous rend la réponse si vous êtes admis chez nous ou pas. Mais c'est ouvert à un large public, tout le monde a sa chance. Je peux citer des exemples qui sont ultra reconnaissants. On a des jeunes qui arrivent d'autres pays, mais qui sont un petit peu francophones, qui avaient zéro diplôme et qui ont obtenu les félicitations du jury en fin d'année. Mais tout ça était lié à la détermination. Et c'est vrai que la détermination, elle se voit dans les yeux. Il y a aussi une valeur humaine. Et quand on voit quelqu'un vraiment déterminé, ben voilà, c'est ce que je disais, on peut déplacer des montagnes.
Ça peut faire beau de fierté.
Voilà, exactement. Tout à fait. Voilà. Et vous m'avez dit, donc ça, c'est les motivations. Donc, conditions d'inscription. En effet, bon, il faut avoir un titre de séjour valable. En l'occurrence, il y a aussi cet aspect administratif, d'accord. Il y a des mineurs aussi, il faut avoir l'autorisation des responsables légaux, d'accord. C'est pas forcément les parents, mais des fois c'est un autre organisme, par exemple. Comme je disais, dans certains de nos diplômes, il faut avoir un niveau minimum de français.
Combien coûte la formation et peut-on avoir des aides?
Ah, ce qui est bien, et ça c'est le mot que tout le monde aime, la formation est totalement gratuite. Alors, elle ne l'est pas foncièrement. Attention, c'est nos impôts qui vont la payer, tout simplement. Elle est financée par ce qu'on appelle des opérateurs de compétences. D'accord ? Les opérateurs de compétences, au début, vont commencer à financer votre formation jusqu'à ce que vous trouviez un employeur. D'accord ? Ils vont financer 3 mois avant que vous trouviez un employeur. Okay. Bon, en général, moi, il m'est très rarement arrivé de mettre 3 mois pour trouver un employeur à un jeune. Hein. C'est assez rapide, en général. En l'occurrence, c'est ce qu'on appelle les OPCO qui financent la formation. Elle a un coût, votre formation. C'est pour ça qu'il faut vraiment le réaliser. C'est se dire, merci, l'État français m'a payé ma formation. Parce qu'il faut les payer, les formateurs. Il faut payer le loyer des locaux et compagnie, etc. Ça a un coût. Mais qui est totalement absorbé, en effet, par l'administration.
C'est avantageux.
Voilà. Et il y a un autre point essentiel, en effet, et ça concerne nous, le centre de formation. Il faut savoir qu'on a réalisé, on en parlait tout à l'heure, que le permis était un élément phare dans la poursuite de demandes de la recherche d'emploi. C'est pour ça que nous, pour chaque titulaire, donc chaque majeur, donc il faut avoir 18 ans déjà, toute personne étant majeure et être en possession d'un contrat d'apprentissage, c'est-à-dire que ça y est, on vous a trouvé un employeur, ben on vous donne 500 euros pour que vous puissiez passer le permis. Donc ça représente pratiquement la moitié du permis. Donc avec votre salaire d'apprenti, ça vous permet... Moi, j'ai eu beaucoup d'apprentis qui sont restés dans ce projet, c'est-à-dire qu'ils sont rentrés, ils se sont inscrits chez nous. Ils n'avaient ni permis ni voiture. Fin de formation, ils avaient le permis et la voiture.
Ça amorcit le choc, ça amorcit de...
Et oui, voilà, permis, voiture. C'est-à-dire qu'avec son salaire, j'ai financé ma voiture. S2M m'a payé 500 euros de permis. Ils ont passé leur permis tout au long du cursus. Fin d'année, c'est bon, j'ai mon solde tout compte. Je peux acheter ma voiture. Et puis là, j'ai un jeune, il a acheté sa petite Golf, il était tout content. Voilà, donc en un an, vous imaginez, diplôme, expérience. N'oubliez pas, c'est important, parce que le diplôme ne suffit pas.
C'est ça.
Expérience. Grosse probabilité d'embauche. Permis. Voiture. Rémunération. C'est que du gagnant. J'espère avoir répondu à toutes vos questions.
Je vous remercie d'être venu et c'était très, très intéressant.
En tout cas, je serais ravi de tous vous accueillir pour toutes les personnes qui souhaitent nous rencontrer. Et ce fut un plaisir partagé. Et je remercie aussi toute l'équipe pour nous avoir accueillis pour cette expérience. Très bien. Merci beaucoup.
Merci.
C'est la fin de notre épisode sur les métiers de la vente et les formations pour y accéder. Merci à Nemati, Judith, Mokhtar, Tatoul et Malik d'avoir écrit et posé ces questions. Et merci à Aziz d'être venu y répondre. On se retrouve bientôt pour un épisode de...
Jobcast.
La Voix de l'Emploi, une série d'émissions consacrée à la valorisation des acteurs de l'économie, de l'emploi et de l'insertion. Ce projet, réalisé par Radio Ondaine, est financé dans le cadre de la politique de la ville par l'État et Saint-Étienne Métropole.